mais sont consacrées toutes les deux aux korbanot. La parcha de Tsav, elle est plus détaillée que la parcha de Vayikra. Et d'ailleurs, il y a dans la parcha de Tsav plusieurs occurrences de Zot Torat Ha. Ceci est la loi de Aola ou Ashlamim, etc. C'est une espèce d'introduction parce qu'on va citer le détail des halakhot. Cette expression-là, Zot Torat Ha, quelque chose, c'est typique de Parshat Tsav. C'est pas, ça figure pas comme ça dans Vayikra. Donc la paracha, elle commence par ordonne à Aaron et à ses fils, les morts, donc Zot Torat Ha'ola, c'est la Torah de l'Holocauste. La Ola, c'est le corban qui monte, où tout monte, c'est-à-dire tout est brûlé. Le propre du feu, c'est de monter. Alors, hi ha'ola al mokda, elle brûle sur le moquette, sur le foyer de à la misbéa, sur le feu qui est sur le misbéa, kol ha'laila ad ha'boker. Et le feu du misbar, il doit brûler en permanence. D'autres endroits sont marqués Tamid. Le Tamid qui est écrit plus loin sur là-dessus, sur le fait que ça doit brûler en permanence. Le mot Tamid veut dire, normalement, ça veut dire de façon permanente. Mais par exemple, dans le Corban Tamid, on appelle le Corban Tamid, ce qui est le Corban qu'on amène quotidiennement, 2 fois par jour, matin et en fin d'après-midi, vous voyez que ce Corban, c'est pas un Corban, ici le Tamid ne veut pas dire en permanence, il veut dire tous les jours. Alors, des fois, tamid veut dire tous les jours. Des fois, ça veut dire continu. Donc, ça veut pas toujours, enfin, ça veut pas en général dire ça brûle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, cette histoire du feu qui, sur le misbéar, c'est une mitzvah. Et cette mitzvah, le chinuch, il en parle. Donc c'est une mitzvah, donc comme le chinuch, il parle de toutes les mitzvot. Dans la mitzvah Kuf Lamed Bet, la mitzvah numéro 132, le chinuch parle de cette mitzvah, Liot Esh al Hamizbeach b'chol yom tamid. C'est marqué dans le pasouk, Esh tamid, un feu de façon permanente, tukad à la misbéar, va brûler sur le misbéar, l'otichbe, va veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas. Et le chinuch dit, Uba pirush el tamid, le sens du mot tamid ici, klomar, ça veut dire la sim et sim baboker ou ben arbaim. Ça veut dire que le matin et en fin d'après-midi, on doit mettre du feu, on doit mettre du bois, pardon, pour alimenter le feu, pour assurer la permanence du feu. C'est ça, tamid. Tamid, ça veut dire tous les jours, en l'occurrence 2 fois par jour, tu mettras du bois dans le feu. Et Chazal explique que le feu qu'il y a sur le Mizbéach, c'est un feu qui vient du ciel. Mais bien que le feu vienne du ciel, il y a une mitzvah pour les hommes de contribuer à ce feu, d'apporter leur contribution à ce feu, comme on dit, mitzvah lehavi min ha'edyot. Il y a une mitzvah d'amener du feu, d'un feu qui vient d'un humain. Cette idée que quelque chose qui est fait par Hachem fait quand même l'objet d'une mitzvah pour les hommes en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'amenait pas le bois, ça brûlerait quand même, parce qu'Hachem envoie du feu. Ce feu, vous le connaissez, c'est le feu qui va brûler les Nadav et Abihu, les fils d'Aaron. Je vous rappelle, à l'inauguration du Mishkan, 7e jour, donc, ils devaient amener du Ktoret, de l'encens. Et en temps normal, et d'ailleurs chez vous aussi, si vous avez décidé d'amener de l'encens, de brûler de l'encens pour avoir une bonne odeur, aujourd'hui il y a des bougies courantes, odorées, je sais pas quoi, bon, qui sont là pour faire pour faire attention, c'est pas très très mauvais pour la santé, mais bon, c'est pas faire. Eh bien, et d'ailleurs, on avait l'habitude, après le repas, de faire brûler, ça s'appelait mugmar, on faisait brûler de l'encens, parce qu'il y avait les odeurs de la nourriture, et pour, aujourd'hui on a les pchit, à ce moment-là, ils faisaient brûler des parfums pour dissiper la mauvaise odeur qu'il y avait de. Avec la nourriture, ça fait des odeurs quand ça stagne un peu. Quand vous amenez, si vous voulez amener, vous n'allez pas allumer les parfums, faire brûler les parfums devant les gens. Vous allez faire brûler à l'extérieur. Quand ça brûlera bien et que ça va donner un beau nuage, qui apportera une bonne odeur, vous allez l'entrer. C'est ce qu'on fait en temps normal dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. On allumait, dans la cuisine, en quelque sorte, on allait faire brûler jusqu'à ce que on ait un beau nuage, et c'est ce nuage odorant avec, d'accord, quand c'est arrivé à ce stade-là, c'est à ce moment-là qu'on le faisait entrer. Et Nadav et Avihu, ils voulaient faire comme ça. Vous voulez faire à l'inauguration ce qu'on fait dans la vitesse de croisière. Alors, les inaugurations ou les départs, c'est jamais comme la vitesse de croisière. Donc, quand vous allumez votre interrupteur, la tension, elle ne fait pas comme ça. D'accord? Elle monte jusqu'à ce qu'elle ait atteint la hauteur voulue. Elle se stabilise. Alors même si c'est des fractions de seconde, peu importe, mais c'est comme ça. Un démarrage, c'est pas vertical et ça monte pas comme ça. Alors à l'inauguration, Hachem a dit, faut que ce soit visible, que le feu, il vienne de moi. C'est moi qui envoie le feu. Et eux, ils n'ont pas voulu faire comme ça. Ils ont voulu forcer la main. Forcer la main, probablement parce que eux, ils pensaient que on n'en est plus à la phase de démarrage d'enfance du Klal Israël. Nous, on est là, on est la nouvelle génération. Donc nous maintenant, on est dans la vitesse de croisière et donc on n'a plus besoin. De la même manière, il pensait, il y a ce fameux Midrash qui dit que Nadav et Abihu marchaient derrière Moshe, Rabbeinu et Aaron. Il disait, quand est-ce que ces deux-là vont disparaître pour que nous dirigions le peuple d'Israël? C'est pas que, c'est qu'il pensait que Moshe et Aaron étaient nécessaires au démarrage pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, pour les sortir de l'idolâtrie et les amener au Sinaï. Ok, c'est nécessaire d'avoir, c'était nécessaire d'avoir Moshe et Aaron. Mais maintenant, voilà, on est dans une vitesse de croisière, on n'a plus besoin de. Et là aussi, ils ont voulu brûler les étapes et c'est eux qui ont été brûlés. Mais en fait, le feu, en fait, c'est le feu d'Hachem. Alors c'est un peu paradoxal quand on y réfléchit. Parce que ça veut dire que quand on apporte un corban, étant donné le feu, il va jouer un rôle très important dans le feu, dans le corban. C'est dans le feu que on va brûler ce qui doit être brûlé. Dans le corbanote, il y a toujours une partie qui est brûlée. Et c'est fondamental dans la avoda. Mais si c'est Hachem qui allume le feu pour le corban que les hommes apportent, donc les hommes, ils apportent un corban pour Hachem, et Hachem est à la fois du côté du récepteur, celui qui reçoit le corban, mais du coup, il est aussi du côté de ceux qui fabriquent, qui amènent le corban, puisque c'est lui qui donne le feu. On retrouve quelque chose qu'on a déjà vu, mais à l'envers, où c'était Moshe Rabbeinu qui voulait faire comme ça. C'est Moshe Rabbeinu, quand il a ajouté un jour à Shavuot, un jour supplémentaire de préparation, il voulait que les Bnei Israël soient non seulement du côté de ceux qui reçoivent la Torah, mais aussi du côté de ceux qui la donnent. Et comment est-ce qu'ils sont du côté de celui qui la donne? Parce que c'est eux qui fixent le moment où c'est donné. Et quand tu fixes le moment où un cadeau est donné, alors, comme un cadeau n'a pas la même valeur s'il est donné comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau de Brit Mila ou de mariage ou d'anniversaire ou je sais pas quoi, de naissance. Donc, celui qui fixe le moment, il donne sa vraie dimension, enfin, il donne une dimension particulière au cadeau. Donc, Moshe Rabbeinu voulait que les Bnei Israël, c'est nous qui avons dit, quand Hachem allait donner la Torah, Hachem avait donné la Torah, avait décidé qu'il allait donner la Torah le 6 Sivan, et Moshe a décidé que non, ce ne serait pas le 6, ce serait le 7. Il a décidé ça au nom du Klal Israël. Donc c'est Klal Israël qui a fixé la date du don. Donc le Klal Israël est à la fois du côté de celui qui reçoit la Torah et aussi de celui qui la donne. Ici, c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu est à la fois du côté de celui qui reçoit le Korban. Il est aussi celui qui le donne, d'abord parce que s'il y a quelque chose, s'il y a des hommes et s'il y a des animaux pour devenir les corbanotes, etc., et bien sûr, c'est Hachem qui donne la vie à chaque instant. Mais au-delà de cette généralité-là, il y a que concrètement, ce corban-là, il est approché grâce au feu dont Hachem est en tout cas un des auteurs. Avec l'homme, bon, puisque les hommes reçoivent la mitzvah, de eux aussi participer à ce feu, entretenir ce feu divin, de sorte que le feu en question, c'est le feu qui est produit à la fois par Hachem et par les Bnei Israël. OK? Ça, c'est un point, me semble-t-il, très important. Et voilà ce que dit le chinour sur cette mitzvah du feu qui doit durer en permanence. Donc, vous savez, quand le chinour, quand il présente les choses, il décrit la mitzvah, puis à un moment donné, il dit, Mishorashe a mitzvah, dans les racines de la mitzvah, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher le sens fondamental de la mitzvah, dans les shorashim de la mitzvah, les racines de la mitzvah. Alors il dit, Agdama, je fais une introduction. Et il dit, Yadua Adavar Beneinu, chez nous les Bnei Israël, la chose est connue, et d'ailleurs elle est connue et celle Kol Adam, toute personne Chacham le sait aussi, qui Nissim Gluyim, et Nissim Gdolim, pardon, Asher Yaaseh Akel El Bnei Adam Betuvo Hagadol, le Olam Yaaseh Derech Seter. Quand Hachem fait des grands miracles, un grand miracle, c'est par exemple fendre la mer. C'est un grand miracle. Eh bien, ce miracle-là, Hachem, dans la Torah, il l'enrobe en quelque sorte. Il le présente comme quelque chose de naturel ou de presque naturel. C'est vrai pour tous les grands miracles. Tout de suite, il va apporter un exemple. Alors, il dit, pourquoi est-ce on le cache, ce miracle? On le fait apparaître comme quelque chose de normal, c'est-à-dire on fait disparaître, d'une certaine manière, le miracle. Il dit, Nirim ha'inyanim na'asim k'tzat ki'iluhem bedarki ha'teva mamash o karov la teva. Donc, les choses sont présentées comme si elles étaient naturelles ou proches du naturel. Alors, l'exemple qu'il donne ici, c'est Kriyat Yamsouf, le partage de la mer. Le partage de la mer, c'est un vrai gros miracle. Qu'est-ce que la Torah en dit? La Torah dit, Vayolich Hashem et Hayam, Beruach Kadim Azza, Kol HaLaila, Vayasem et Hayam l'Cherava, Vaybaku Amaim. Hachem a fait souffler sur la mer un vent d'est très violent, un tsunami d'est, pendant toute la nuit. Et ce tsunami, il a démonté la mer. C'est-à-dire, il y avait des vagues gigantesques. C'est comme des murs. Et les eaux ont été fendues. Quand vous avez d'énormes vagues, et donc entre deux vagues, vous avez l'impression qu'il y a comme une fente de l'eau. Là, il y a l'eau ici, l'eau est là, et là, bien, il n'y a presque pas d'eau. Donc la Torah, elle présente Kriyat Yamsouf comme un. Presque un phénomène naturel, un tsunami. Yavinu. Les gens qui réfléchissent, ils vont comprendre qu'Inyan Seter, ce Inyan de cacher les choses, ça vient de ce que c'est le Malat Ha'adon Veshiflutam Kabel. Ça vient de, ou ça vient exprimer, ou ça vient de la hauteur de l'auteur du maître, celui qui est le maître du Nes, et de la petitesse de celui qui reçoit le Nes. Donc c'est tellement énorme que c'est ça, le inyan de le faire en cachette, ça vient de là. Mizé Sivanu, et c'est de cette manière-là, c'est-à-dire pour la même raison que nous avons reçu l'ordre, le Avir Esh Bamizber, que nous avons reçu l'ordre d'ajouter, de faire brûler le feu sur le Mizber, Afalpi Shecham Yored Esh Minashamayim, bien qu'il y ait du feu qui vienne Minashamayim. Et pourquoi? Les Hastir Anes, pour cacher le fait que le feu vient du ciel. Il y a un feu sur le misbéach? Oui, d'ailleurs, les bénis Israël, tous les jours, ils amènent, matin et en fin d'après-midi, ils amènent du bois pour que le feu brûle. Le fiat domé, chez Aesh, à Yorenet, l'Orienta Niritz Beiridata, Minatam chez Amarnou. Et donc, c'est comme ça, a priori, le feu qui venait du ciel, mais il n'était pas du tout visible comme tel, sauf le Shmini, sauf le huitième jour des Milouim, sauf le huitième jour de l'inauguration du Mishkan, ou avec l'histoire de Nadav et Abihu. Et il y a eu d'autres endroits, il y a un épisode avec Gidon, et aussi un épisode avec Manoach, le père de Shimshon. Bon, quand l'ange a rencontré la mère de Shimshon et qu'il lui a ordonné, il lui a dit, tu vas être enceinte et tu vas devoir tenir compte de ce que ton fils sera un nazir. Donc toi-même, tu dois maintenant, durant la grossesse, tu dois veiller à ne pas toucher aux raisins, ni au vin, ni etc. Et ensuite, le mari, il y croyait pas trop, alors Malach est revenu parler avec Manoach. Et là-bas, il y avait un feu. Donc, il y a quelques endroits où effectivement il y a eu un feu visible, mais en général, le feu, et en particulier le feu du Misbéach, la Torah, elle a essayé de le rendre invisible en disant au Bnei Israël, vous allez amener 2 fois par jour du bois pour entretenir ce feu. Donc, je vous rapporte ici un enseignement de Rav Volbe, mon maître, qui dit Advarim mafliim. Il dit ces choses-là sont absolument étonnantes. Akadosh Baruch Hu fait souffler un vent d'est extrêmement puissant. Lifkoayam pour fendre la mer. Et il écrit ça dans la Torah. Mais est-ce qu'il existe un imbécile qui peut penser que les eaux vont se tenir comme ça, comme des murs? Ouais, comme des murs, des deux côtés, comme un mur de pierre. Bien sûr que c'est pas comme ça. C'est vrai, il y a eu un tsunami, mais dans un tsunami, on ne peut pas passer entre les deux vagues à pied sec. Vous avez des grosses vagues, mais c'est des vagues, c'est pas des murs de pierre. Bon, les Bnei Israël, ils ont passé entre deux murs de pierre. Enfin, dans l'équivalent de deux murs de pierre. Et là, quoi? Alors ça vient pas nous expliquer ce qui s'est vraiment passé, mais c'est une façon de cacher le miracle. Celui qui lit la chose, il dit, ah oui, je sais comment ça s'est passé. C'est un tsunami. Un tsunami. Voilà. Comme ça, on fait passer le miracle en douce. On dit par ailleurs, d'Akadosh Baruch Hu, il est Omen Mutzna. C'est un artiste, un artisan discret, très discret, très réservé, très discret, distrait. Discret, ouais, pas discret. Au point que même les Nissim Glouim, même les miracles visibles, comme Kriyat Yamsouf, il essaye de les cacher. C'est ça, sa discrétion. Un autre exemple. Le prophète Elisha, successeur d'Eliyahu Nabi, oui. Prophète Elisha, il a reçu la visite d'une vieille dame. Il venait pleurer parce que elle avait des dettes qu'elle n'arrivait pas à rembourser. Et le créancier, il voulait prendre son fils comme esclave quasiment pour payer la dette. Donc elle est venue chercher du secours, du réconfort chez Elisha. Elisha lui a dit, voilà, tu vas collecter auprès de toutes tes voisines le maximum d'ustensiles, de contenants. Tous les contenants, tous les vases, tous les pichets, toutes les tasses, tous les verres. Tu prends tout, 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 tout ce que tu trouves, tu l'empruntes pour une journée à tes voisines. Et tu mets tout ça dans ta cuisine. Et il lui a dit, il lui avait dit ça avant. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce qui te reste? Alors, elle a dit un chouïa de farine et quelques gouttes d'huile. Donc, il lui a dit, voilà, tu vas donc collecter tous ces contenants. Et toi et ton fils, vous allez entrer dans la cuisine et vous allez fermer la porte. Et tu vas verser depuis la bouteille dans laquelle il te reste quelques millilitres d'huile. Tu vas verser, et puis, voilà. Et elle s'est mise à verser. Elle a rempli tous les contenants qu'elle avait. Chaque fois, elle disait à son fils, donne-moi le prochain contenant. Il dit, donne-moi le prochain, il n'y en a plus. Elle avait rempli tous les contenants. Et donc, elle allait pouvoir vendre cette huile, payer la dette qu'elle avait, et donc sauver son fils. Rachid s'arrête sur un détail. Il lui a dit, donc tu vas aller collecter tous les limes là, tous les ustensiles, et toi et ton fils, et vous allez entrer dans la cuisine là, et vous allez fermer la porte. Pourquoi il faut fermer la porte? Pourquoi le texte dit qu'il faut fermer la porte? Même s'il faut fermer la porte, c'est important de l'écrire. Alors il y a Rachid là. Rachid dit, sur Vesagartha Delet, tu fermeras la porte. Kvod ou la Vobeatsnea. C'est le kavod du miracle de se produire discrètement. C'est-à-dire, le kavod, c'est donner du poids. Oui. On donne un poids particulier, son vrai poids, le vrai poids d'un nes, d'un miracle. C'est quand ce miracle se passe de façon discrète. Donc on ferme la porte. Pas dit qu'elle devait obscurcir, etc. Et fermer les rideaux qu'elle avait vraisemblablement pas. Et donc, évidemment, dit le Rav Olbe, si le Nes lui-même doit avoir lieu dans la tsniout, dans la réserve, dans la discrétion, alors celui qui bénéficie du Nes, lui aussi, doit être archi discret. Parce que quelque part, c'est pas fait pour être raconté. Sauf quand il y a une obligation de le raconter. Et si cette exigence, dans le cas de Kriyat Yamsouf ou dans le cas d'Elisha, elle est posée, cette exigence, dans une situation où le nes est galouï, le nes est clair. Quand on ne remplit pas, je ne sais pas combien de kélim avec quelques millilitres d'huile. Millilitres d'huile, oui. Donc c'était un nes évident, clairement un nes. Même là, on doit essayer de le cacher. Alors, quand Hachem décide que le nes va se faire de façon cachée, comme à Pourim, etc., plus forte raison qu'il ne faut pas le raconter. Bon, alors je ne vais pas entrer dans. On est sorti de Pourim, je ne parlerai pas de Pourim.
Il n'y a pas une contradiction.
Ah non?
Il n'y a pas une sorte de contradiction. C'est que ça reste dévoilé. On doit cacher. On ne peut pas cacher, on peut pas cacher obligatoirement.
Parce que, à ce moment-là, il a besoin de faire un S visible.
Il
Le
n'y a pas de
Ramban explique qu'il n'y a pas de différence, mais que de temps en temps, nous avons besoin de Nissim Glouim pour nous aider à comprendre une Nissim cachée. Caché. Alors il dit. Dans le tzibour, c'est-à-dire les gens, ils ont une compréhension très superficielle de la notion de tzniout, de la notion de discrétion. La tzniout dont on parle ici, c'est la façon ou la possibilité, c'est ça le chemin de la construction d'un monde intérieur chez un chez l'homme. Avoir un monde intérieur, une vie intérieure. Dans Michelet, Shlomo HaMelech, il dit Ve'et tznuim chokhma. Rabbeinu Yonah qui commente Sefer Michelet, il dit Atzniut goremet chokhma le ba'aleha. La tzniut, elle engendre, elle génère de la sagesse pour ceux qui pratiquent cette discipline de tzniut, de discrétion et de réserve. C'est la mesure des Chachamim. C'est une mida spécifique des Chachamim que d'être tsanoua. Les Chachamim, ils sont caractérisés par cela, leur capacité d'écouter, de prêter attention, et ils n'ont aucun désir de dévoiler ce qui leur a été dit, fait, etc. Celui qui est tsanoua, celui qui est discret, il porte en lui son monde intérieur. Il a aucune raison, il a aucune envie de le dévoiler, d'en parler à l'extérieur, mais ni même de parler d'une partie de ce monde intérieur, si ce n'est pas absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que avec un monde intérieur, l'homme acquiert une dimension nouvelle. Il y a en lui un monde nouveau. Donc, dimension nouvelle. C'est un contenu riche qui est vraiment personnel. C'est son monde intérieur. C'est aussi, donc c'est le monde du Talmid Chacham. Le sage, son monde, c'est un monde intérieur. Dans la Gemara, dans Sanhedrin, la Gemara, elle dit, comme vous savez, les Neviim, les prophètes, ils ont prophétisé sur Olam Haba, sur le Sra, le salaire de Olam Haba. Et la Gemara, dans Sanhedrin, elle dit un peu différemment de ce que d'ordinaire on dit, les prophètes, ils ont prophétisé, mais ce qu'ils ont dit de façon extraordinaire, ça concerne les Talmidei Chachamim, les Tzadikim, etc. La Gemara, elle dit un peu différemment. La Gemara, elle dit que ce dont parlent les prophètes, Elle parle de ceux qui sont dvoukim betalmidei chachamim, les gens qui sont proches, très proches des talmidei chachamim. C'est de leur sort à eux, de leur schar, de leur salaire à eux, que parlent les prophètes quand ils disent des choses extraordinaires. Aval talmidei chachamim atzman, mais le salaire, le schar, le mérite, etc., les talmidei chachamim eux-mêmes, Aïn lo ra'ata Elohim zulatecha. Aucun œil ne l'a jamais vu, seul HaKadosh Baruch Hu le connaît. Ça, on n'a aucune idée. Tellement énorme que ce dont il parle, qui est énorme, ça concerne seulement ceux qui sont proches des Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim eux-mêmes. Et ce qui est très important, hein, c'est que le salaire dans la Torah, le salaire n'est pas voilà un salaire pour quelqu'un qui a simplement atteint un certain niveau. Le salaire, il reflète vraiment la personnalité qui a atteint ce niveau-là. Je m'explique. Je vais prendre un exemple un peu élémentaire. Quelqu'un a travaillé, il a très très bien travaillé, il a travaillé je sais pas, dans les cerises. Et il a un salaire de. Il a un salaire à un certain niveau. Et quelqu'un d'autre qui a un salaire au même niveau, mais lui, il a travaillé dans les abricots. Ils n'ont pas le même salaire. Parce que le salaire de celui qui est dans les cerises, le salaire sera du type cerise. Et le salaire du type qui est dans les abricots, un salaire du type abricot. C'est-à-dire, le salaire va refléter quelque chose de la raison pour laquelle ce salaire a été donné. Pas simplement, voilà, ils ont tous les deux très bien travaillé, donc tous les deux vont avoir 10 000 dollars, etc. Ça, c'est pas un salaire du type dont on parle dans la Gemara. Donc le salaire, il reflète, il nous dévoile quelle était la personnalité de celui qui reçoit le salaire. Et si on dit que le salaire des Talmidei Chachamim, leur sera, c'est Aïn lo ra'ata Elohim zulatecha. C'est quelque chose que personne n'a vu. On ne peut même pas s'imaginer. Donc ça veut dire que le Talmid Chacham, il a construit, il s'est construit, il a construit à l'intérieur de lui-même, un monde très très discret, un monde dont on ne sait rien. On ne sait rien à l'extérieur de son monde intérieur. Alors, en quoi c'est important d'avoir ce. Comment ça se. Et comment ça se. Ça se traduit ce monde intérieur. Eh bien, ça se traduit par le fait d'avoir un regard sur le monde plein de, on a dit la tzniout, ça génère la chokhma, plein de chokhma. Un regard qui, évidemment, on parle d'une sagesse intérieure. C'est-à-dire de voir les choses, la profondeur des choses. Aller au-delà du côté événement, du côté superficiel. Et c'est tellement important. Pourquoi c'est tellement important? Parce que ce qui est fondamental dans le monde, c'est ce pourquoi Hachem a créé le monde. Hachem veut être reconnu comme le roi. Et donc, le travail des hommes, c'est de reconnaître Hachem dans ce qui se passe dans le monde. Donc, il faut être capable de savoir comment la Shgacha d'Hachem, comment la Providence, en fait, agit dans chaque situation. Et ça se lit pas dans la superficie des choses. Ça se lit quand on arrive à entrer dans la profondeur des choses et qu'on a une lecture en profondeur qui nous dit effectivement comment Hachem agit effectivement dans le monde. Mais ça dépend du monde intérieur de celui qui regarde. On regarde avec ce qu'on est. Donc on va regarder différemment si on a un monde intérieur ou si on n'en a pas. Si on n'en a pas, on va regarder avec les yeux qui regardent les choses à l'extérieur. On va voir la superficie des choses, mais on ne verra pas les choses en profondeur. Donc on ne verra pas la Hashgacha d'Hachem. La Hashgacha d'Hachem, elle ne se lit pas en... Il faut analyser. Si on lit la Megillat Esther telle qu'elle est, l'Hachem n'intervient pas. Oui, pas le nom d'Hachem et nulle part c'est marqué qu'Hachem est intervenu. Or, nous lisons tous, vous avez tous lu la Megillah comme le récit de l'intervention d'Hachem dans le monde. Ou alors vous avez mal lu. Mais comment? Justement, il faut arriver à lire. Et c'est très difficile de lire. Je vais faire remarquer, peut-être je vous ai déjà fait remarquer, que Mordechai, quand il dit à Esther qu'elle doit aller intervenir et supplier le roi pour annuler le décret d'Aman, il lui dit, Umi yodea Imlaet kazot igat le malchut. Moi, si j'avais dû dire quelque chose à ce moment-là, j'aurais dit, si tu es reine, si tu es devenue reine, c'est bien pour ça. Depuis qu'elle est devenue reine, Mordechai, il se balade devant le palais, il écoute tout ce qu'il peut écouter pour essayer de comprendre pourquoi on lui a pris sa femme, quasiment. Elle est devenue reine de Perse. Ma pitonne. Pourquoi? Et toutes les. Normalement, elle n'aurait même pas dû concourir. C'est une femme mariée, c'est pas. Il a cherché que des vierges dans le texte. Col de Betoulot, la robe de Betoulot. Esther, elle ne devait même pas être dans la liste. Au point qu'on doit se demander comment elle... Enfin, non. Il ne s'est pas aperçu qu'elle n'était pas vierge. Il y a des réponses. Pas ça le sujet maintenant. Mais Mordechai lui-même, il ne dit pas, je suis certain que tu es devenue reine pour cela. Pourtant, ça crève les yeux, non? Non, il dit, Miyodera, qui sait? Peut-être que tu es devenue reine pour ça. Même dans cette situation, on a vraiment l'impression que c'est cousu de fil blanc, là, le truc. Mordechai, il est Saint Amitracham. On n'est pas sûr. C'est très vraisemblable, etc. Mais Miyoder. Donc ça veut dire, pour pouvoir lire, il faut être capable, je crois, il faut être capable de lire la situation et de dire Miyoder. Qui sait? Pardon?
Est-ce que lui ça pas sa tête? Il a une de.
Oui, il est en doute. C'est un doute. Miyoder, ça veut dire... Est-ce que c'est pour ça que tu es devenue reine? Que tu puisses le faire, c'est une chose, mais peut-être que ce n'est pas pour ça que tu es devenue reine. Peut-être qu'Hachem, il avait un autre projet encore. Mais ça aussi, ça fait partie des choses, mais ce n'est pas pour cela que tu es devenue reine. Il me l'est et kazot qui gâte mal.
Cela, on va à Malek, avec le doute, avec le doute, pardon,
Oui, bien sûr. Je
avec
l'avais dit dans le chiot que. Effectivement, on est dans le monde d'Amalek. Amalek, c'est celui qui instille le doute. Et lui, il dit tout est simplement du hasard. Donc, et donc, pour pouvoir lire réellement, il faut avoir ce monde intérieur. Parce qu'on va lire avec son monde intérieur. Mon maître à Moshe, il cachait tout pratiquement. Il faisait, il y avait plein de choses que personne ne savait. On ne savait pas. Même sa femme, elle ne savait pas tout. Au moment où il a disparu, alors il y a des choses qui sont arrivées, quoi, qui sont sorties. Que, voilà, il s'occupait de ça, il s'occupait de ça. Personne n'a jamais su. Donc, cette mitzvah d'allumer le feu, de contribuer au feu et de veiller à ce que ce feu ne s'éteigne pas, etc. Vous voyez ce qu'elle nous enseigne, quoi. Ce feu-là, d'après ce que le Chinuch nous a enseigné, ça débouche sur tout le problème de la tzniout, sur le problème du monde intérieur, de la construction d'un monde intérieur. Dans le Halechour, que je vous ai lu, c'est extrait du Halechour, c'est quasiment tout à la fin du deuxième volume d'Halechour. La Gemara, je dis, en Sanhedrin, elle dit, Rav Hanan, il demande pourquoi est-ce que la Torah est appelée Tushia? Et il répond, parce que la Torah, elle affaiblit l'homme. On étudie la Torah, ça affaiblit, ça prend beaucoup d'énergie, ça pompe de l'énergie. La sagesse de la Torah, si on la compare avec les autres sagesses, en fait, elle a ceci de particulier, qu'elle s'occupe du détail. Normalement, la sagesse s'occupe des grands principes. La sagesse de la Torah, elle est dans le fait que on s'occupe de tous les détails. L'étude de la Torah, ça consiste justement à décomposer quasiment chaque mitzvah en une multitude d'halakhot. Halakhot pratiques et de midot. Donc, est-ce que partie de ce que le chinuch a fait un peu dans cette mitzvah-là, d'accord, regardez, ça doit brûler de telle manière, le bois, quand, le matin, le soir, mais c'est ça qui fatigue. C'est ce souci du détail, la nécessité d'entrer dans tous les détails. Elle s'arrête sur toutes sortes de détails. Elle s'arrête sur quand tu veux faire une bracha, tu vas manger quelque chose. Alors la Torah, elle veut savoir qu'est-ce que tu as devant toi. Et suivant ce que tu as devant toi, tu dois commencer par ceci, parce que cette bracha-là, elle est plus pointue, donc il faut la faire avant une bracha plus générale. Bon, ça veut dire que si je veux faire une bracha, je fais une bracha brit pri à Etz, pour la faire avant une bracha brit pri à Adama. Ce brit pri à Adama, ça englobe le Etz. Et le Etz, il pointe seulement l'Etz. Ça veut dire que si j'ai une pomme et une banane, a priori, pour faire les choses dans l'ordre, je dois faire la bracha sur la pomme d'abord, parce que c'est Etz, alors que la bracha sur la banane, c'est Adama. Donc la Torah, elle s'intéresse à ces dînes de préséance. Il y a une préséance qui, si on veut dire quelque chose dans les 30 jours qui précèdent Pessah, qui s'occupe des halakhot. Aussi une halakha qui parle de la de Pessah, mais aussi à Pessah. Quand on fait kiddush, ça se fait sur le vin. Et on a sur la table, on a aussi des chalotes, on a du pain sur la table. Mais quand on a du pain et du vin devant soi, la halakha, elle est qu'on doit faire la bracha sur le pain d'abord. Mais nous, on fait kiddush d'abord. On fait la bracha, ouais, par exemple, sur le vin d'abord. Donc, comment on se débrouille? Alors, il y a deux solutions. Ou bien tu mets pas le pain sur la table quand tu fais kiddush. Ça peut être plus logique. Ou alors tu le mets, mais tu le couvres. On considère comme ça, le pain, il voit pas qu'on le néglige quand on fait passer en second. Alors que Minadine, il devrait passer en première. Ça, c'est vrai pour le kiddush de Shabbat, les fêtes. C'est aussi vrai pour le kiddush de le soir du Seder. On fait kiddush d'abord. Kadesh, et seulement bien plus tard, on va s'occuper du pain. Mais on a déjà sur la table, certains disent, on a sur la table à ce moment-là, on a déjà les matzot. Il faut les couvrir. D'un autre côté, le récit de Pessah, le récit de la sortie d'Égypte, il doit se faire à Matzot découverte. Donc ça veut dire, je couvre les Matzot, je fais kiddush, je découvre les Matzot, et je raconte le récit, et le deuxième kos, il est encore avant. On mange du pain. D'accord? Donc, pour le deuxième kos, je couvre les matzot et je bois sur la deuxième coupe et je redécouvre les matzot et je continue mon récit. Au moment où on arrive enfin à faire la bracha sur la matzah. OK? Donc, on entre dans un détail important. Il faut boire quatre coupes et il faut manger de la matzah maintenant. Dans quel ordre? C'est vrai que le seder, c'est un ordre. Mais justement, cet ordre-là, il ne respecte pas l'ordre prescrit par la Torah quand on a devant soi du pain et du vin. L'homme de vin, il mettait pas le pain sur la table, Shabbat, au moment du kiddush. C'est vraiment le plus logique. C'est un peu drôle de mettre et le couvrir. Bon, mais alors, en le couvrant, on fait encore autre chose. En même temps, comme on couvre, et donc on entoure le pain d'une certaine manière, parce qu'il y a la planche qui est dessous, ou l'assiette, et puis le. Et donc le pain est enrobé. Et d'une certaine manière, comme le pain de Shabbat, ou, comme ça, il est réminiscent un peu de la manne. Et la manne, elle était enveloppée de rosée. Il y avait de la rosée autour. Donc, cet emballage qu'on fait pour le pain, c'est réminiscent de la rosée qui entourait la manne. Il y a encore plein d'autres explications. Mais bon, ça enrichit le. Voilà, c'est. Maintenant, on peut très bien emballer et amener les matzot ou les chalot sur la table après le kiddush, enveloppé. Donc, on a la rosée aussi. Pas seulement la rosée, si on a les matzot sur la table au kiddush. Donc, le travail de la Torah, c'est un travail qui fatigue. Parce que justement, il y a ce souci du détail. Certains disent que le Satan, il est dans les détails. Donc, si effectivement on a ce souci des détails, ça veut dire qu'on est toujours confronté au Satan, puisque Satan est là dans les détails. Satan, il est toujours là pour te dire, c'est pas important, il y a des choses plus importantes que ça, tu vas pas t'arrêter à ces détails-là. Justement, la Torah veut qu'on s'arrête au détail. Ça, c'est fatigant, disons. On a parlé du feu. D'ordinaire, quand on pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est en général la question standard, qu'est-ce que c'est? La Torah, elle ne pose pas la question, qu'est-ce que c'est? La Torah, elle pose la question, en quoi ça me concerne? À la question, qu'est-ce que le feu? Le scientifique, il aurait expliqué comment le feu arrive, etc., quelle température, quelle couleur, quel combustible, etc. La Torah, quand elle nous parle du feu, elle nous dit, le feu, c'est un des arba avot Bava Kama commence, il y a quatre types généraux de dommages, de causeurs de dommages. Et une des causes des dommages, c'est le feu. Le feu, c'est un destructeur, etc. Donc, on nous présente, c'est notre relation avec le feu. Si j'allume du feu, je suis responsable, je dois veiller à ce que le feu ne m'échappe pas et qu'il n'aille pas brûler la récolte du voisin. Et puis, d'un autre côté, on nous dit ici, attention, le feu sur le misbéar, tu dois veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas. Tu dois l'entretenir deux fois par jour, tous les jours. Shabbat comme Shabbat, Yom Tov et la semaine. Et éveiller donc, s'éteigne pas, c'est la mitzvah. Ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, cette façon d'appréhender les choses, la Torah, elle s'occupe de quelle est la relation, ma relation avec les choses, plutôt que d'essayer de définir les choses en elles-mêmes. Alors, il en va de même, si on peut parler comme ça, avec Hachem. C'est-à-dire, la Torah ne nous dit pas qui est Hachem, mais elle nous dit quelle relation nous entretenons ou nous devons entretenir avec lui. Par exemple, la Torah, elle nous dit que c'est ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Quand le clan Israël va fauter, alors quelqu'un va s'envelopper d'un talit, il va réciter les Shlosh Esrei Midot de Rachamim. Il va réciter les 13 mesures de Rachamim, de Hachem Hachem, qui est le Rachum V'Chanoun, etc. C'est-à-dire, et Hachem dit, si vous faites ça, alors moi je pardonnerai. Donc ce sujet-là, le Shlah, il ramène les Géonim. Les Géonim, c'est les maîtres après la clôture de la Gemara. Il y avait en Irak, aujourd'hui en Irak, il y avait les maîtres. Les grands maîtres étaient là-bas. Et pendant longtemps, jusqu'à peu près l'an 1000, à peu près, quand on avait des questions dans le reste du monde, en Espagne ou en Allemagne ou en France, on envoyait les questions en Irak, posait des questions et il renvoyait la réponse. Et à peu près à l'an 1000, commence à peu près avec c'est le Rif. Commence les Rishonim. Les Rishonim, ils sont aperçus que bah, finalement, aujourd'hui, on en sait autant que les rabbins d'Irak, etc. Il n'y a plus lieu de, on n'a pas besoin d'envoyer nos questions là-bas. On peut résoudre la question tout seul. Donc, les Ashkenazim, d'abord, ils se sont libérés de poser plus leurs questions là-bas, décider eux-mêmes. Après, les Espagnols aussi, donc c'est la même chose. C'est fini, donc. Ça, c'était l'époque des Géonim. Dans les Géonim, il y avait des époques un peu différentes aussi, mais bon, c'est ça les Géonim en général. Alors, les Géonim, ils disent que les 13 Midot de Rachamim, il ne faut pas croire que ce sont des attributs d'Hachem. Hachem n'a pas d'attributs. Mais ces choses qui nous sont dites, il faut les entendre comme des façons, différentes façons, pas les différentes, mais différentes façons de gouverner le monde par Hachem. Hachem gouverne le monde par Chesed, par Gvura, etc., par toutes les midot. Et à quoi ça sert de savoir qu'Hachem gouverne les maîtres? Avec ça, on voit bien, quoi. Alors, on sait que c'est fait pour que nous imitions Hachem, nous aussi, dans notre conduite, en utilisant ces 13 différentes midot. Et le Ramak, par exemple, à Moshe Cordovero, en Tomer Dvora, il fait ce travail d'expliquer comment on doit se conduire si on veut essayer de correspondre à la mida de Chesed, à la mida de Gvura, etc. Comment on doit se conduire horizontalement, c'est-à-dire avec son prochain, et aussi dans nos relations avec Hachem. Donc ici, de nouveau, la Torah, elle nous enseigne comment on se conduit avec Hachem. Et comment est-ce qu'on peut comprendre comment Hachem se conduit avec nous? Quelles sont des grilles de lecture, un peu. Le Maharal de Prague, il dit que la Torah, ça a la même racine grammaticale que Hora'a. Hora'a, c'est l'instruction. C'est comment se situer par rapport à la création. L'indication que la Torah nous donne, comment on doit se comporter avec son prochain, avec l'étranger, avec le goy, avec les enfants, avec les femmes, avec etc. Quelle façon de se comporter. Mais la Torah, elle dit plus que ça, puisque dans Pirkei Avot, on nous enseigne que la Torah, elle fait grandir l'homme. Au-dessus de tout, elle permet justement de diriger tout ça. Et elle nous décrit la Torah, la bonne relation avec tout. Comment est-ce que on, comment, dans quel genre de relation il faut être avec, avec toute la création? C'est le but de la, parce que c'est tout ça, ce détail de la Torah. Et on a encore un peu de temps pour regarder un corban particulier dans le chapitre 7. Si vous prenez en fait la, le shlichi, c'est-à-dire le 7, 11, verset 11. Zot Torat Zevach Hashlamim. Ceci est la loi, la Torah. Le Zevach, c'est le korban, c'est le la shrita du, c'est la bête qu'on va égorger, oui. Zevar, c'est la shrita. Zevar HaShlamim, du shlamim avec le korban qu'on, enfin, la viande qu'on va produire, en tuant la bête, égorgeant la bête. Alors, shlamim, c'est un korban. Vous entendez dans Shlamim, vous écoutez, on entend bien Shalom. On dit que c'est un corban qui fait le Shalom entre tous parce que dans les Shlamim, la viande en question, une petite partie est mise sur le Mizbéach et elle est brûlée. Une partie est mangée par les Kohanim. Et une partie est mangée par le clan, par par le clan. Donc tout le monde a sa part. Le Kohanim, le Bnei Israël et le Mizbéach. Alors, les Shlamim, on peut en apporter dans toutes sortes de circonstances. Et la Torah, elle commence par Imal Toda Yakriven. Si tu amènes un Shlamim comme Korban Toda. Korban Toda, c'est un korban de remerciement. Qui est-ce qui remercie? C'est par exemple celui qui est sorti de prison. En tout cas, s'il était dans une prison où il risquait un peu sa peau, il risquait de. Les prisons de l'Antiquité, c'est un peu les prisons telles qu'on les décrit en Asie ou je sais pas quoi, c'est les trous, quoi. Donc c'est quand on est, si on arrive à s'en sortir, il y a de quoi remercier Hachem. Ou bien celui qui a fait un voyage en bateau sur des ou des, sur des chemins dangereux, etc. Donc il exprime sa reconnaissance en apportant un korban, qui s'appelle korban toda. Et la Torah nous donne le détail de qu'est-ce qu'on amène avec le Zevar Shlamim, qu'est-ce qu'on amène avec la viande? Bon, on va faire la Shrita, le Zrikat Adam, on va s'occuper ensuite de la viande. Veikriv al Zevar HaTodah, on va approcher, en plus de la viande, Chalot Matzot Vloulot Bashamel. On va apporter des Matzot. Pétri dans l'huile. Ou rekiké matzot bachem. Les rekikim, c'est des galettes ou des petites matzot. Aussi matzot. Alors, il faut savoir que le pain, la chot, les offrandes végétales, etc., dans le Beth Amikdash, c'est toujours, toujours des matzot. C'est jamais du pain levé, sauf deux exceptions. Une exception qui concerne un korban du tzibbour, c'est-à-dire qu'à Shavuot, on amène un korban spécifique de Shavuot, qui est sept kvassim plus deux pains. Et les pains en question, c'est les pains de Chametz. On dit que le jour où on reçoit la Torah, on peut se permettre de manger du Hametz, mais le Hametz, c'est qu'on, la fermentation, c'est qu'on, c'est Yetzer Hara. Et le, au niveau du corban, la corban personnelle, c'est ici, parce que je vous ai lu seulement le début, matzot, matzot, mais ensuite, et aussi, solet mourberet, pardon, c'est de la farine avec toujours de l'huile et qui est ébouillantée. Parce que ça donne un truc bouilli, je sais pas quoi. Et ensuite, al-chalot lechem chametz. Et on va porter du pain chametz, du pain fermenté, du pain qui a gonflé. Et là, on répète, sur ce verset-là, on répète que Yakriv Korbano al Zevar Todat Shlamav. Mais on vient de le dire au départ. On l'a dit au début dans le verset 11, que c'est Torah Zevar Shlamim. Et là, on répète tout de suite après avoir mentionné le pain Chametz, on reprécise que ça vient sur la viande du Korban Shlamim. Alors, sur ce verset de Al-Khalot Lechem Chametz Yakriv Korbano Al-Zevar Todat Shlamav, le Hamed Davar, le Netziv de Volozhin, il explique Mashmaout HaMikra. Le sens de ce verset, c'est de dire que le Tachlit HaKorban, le but de ce Korban-là, qu'on a apporté, ou chalot lechem chametz. Ce sont les pains, les 40 pains chametz. Et c'est la raison pour laquelle, tout de suite après avoir cité le chametz, on recite Zevar Shlamim. Et ensuite, il explique comment comprendre que l'essentiel de ce korban, c'est les chalot de Chametz. Aïnyan de Tachlit Toda Sheba Al-Hanes. La Toda, le Korban Toda, il vient sur un miracle, le miracle du sauvetage de celui qui était en mer, etc., et qui s'en est sorti. C'est que dès le saper, Hasdei Hashem, Shigamalalav, ou raconter le chesed d'Hashem dont il a bénéficié, celui qui est sorti ici indemne. Là, c'est un moment où il faut raconter le miracle. Vous avez dit, on avait vu avant, on raconte pas les miracles, sauf quand il y a une mitzvah de le raconter. Et c'est pour ça, dit-il, que Riba katur belechem umiet bezman, afilat toda mikol shlamim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Il y a beaucoup de pain, il y aura beaucoup de pain à manger. Bon, il y a de nombreux pains. Et on a réduit, alors, juste pour mémoire, quand on a un corban, alors, si on doit le manger, c'est-à-dire quand ça doit être mangé, c'est-à-dire quand ce n'est pas un holocauste, quand ce n'est pas une hola ou qui est entièrement consumée, alors on doit le manger dans un laps de temps déterminé, dans un endroit déterminé. Et c'est les gens bien déterminés qui peuvent le manger. Alors, on s'est arrangé pour qu'il y ait beaucoup à manger et qu'on puisse. Et, ah oui, alors, le laps de temps, c'est des fois c'est un jour et une nuit, et d'autres fois c'est 2 jours et une nuit. Un jour, une nuit, un jour. Dans le Beth-Amikdash, la journée, elle commence le matin. Pas comme chez nous. Chez nous, le Shabbat, il commence vendredi soir. Beth-Amikdash, la journée, le Shabbat, elle commence le matin. Et elle est suivie de la nuit qui suit. Bon, l'ordre est lumière, obscurité. Tandis que chez nous, en dehors du Beth-Amikdash, c'est obscurité d'abord et on va vers la lumière. D'accord? Merci. Et donc, pour ce Corban-là, on a réduit le temps. Et pourquoi cela? Parce qu'on veut que il soit beaucoup à manger et qu'ils aient pas de temps. C'est-à-dire que tout le monde mange une seouda, dans une seouda, le jour même où on approche le Corban. Pas le lendemain, comme on pourrait le faire pour d'autres shlamim. Mais ici, on veut qu'ils mangent tout. Pourquoi on veut ça? Parce qu'on veut qu'ils soient nombreux à entendre le récit du Ness. Comme le Korban Toda, l'essentiel, c'est de publier qu'Hachem a fait le Ness, etc. Bon. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'auditeurs et que ils soient pas. Moi, je viens manger ça demain, quoi ce soir. Non, non. Tout le monde vient au même moment. On fait une grande souda et il raconte son histoire à beaucoup de gens. Et c'est ça le but. C'est pour ça que les challot, ça prend du temps de manger. Et manger, c'est très important. Et en vérité, quand on mange du pain, c'est vraiment manger. Que matzah ou lechemoni, ve'eno nechal yafé. Comme au chametz. La matzah, ça se mange pas aussi bien que le chametz. La Gemara dans Svachim, elle le dit. Bon, c'est assez simple, hein. Vous savez probablement pourquoi c'est. C'est parce que dans le processus de digestion, il se passe quelque chose qui s'est déjà passé si il y a eu fermentation. C'est-à-dire que quand il y a eu la fermentation, c'est-à-dire quand on a du pain qui gonfle, c'est comme si une partie du processus de digestion a déjà été fait en dehors du corps, avant de manger. Donc, d'une part, quand tu manges de la matzah, tu dois prendre une partie de l'énergie que la matzah t'apporte pour la digérer, ce que tu n'as pas besoin de faire avec du pain, parce que le pain, il est déjà un peu prédigéré. Et c'est pour ça que ça tient pas au corps, parce que une partie de l'énergie est nécessaire pour pouvoir le digérer. Et bon, donc, c'est pour ça que c'était ça le pain qu'on nous a donné comme esclaves. Fallait donner à manger, mais on voulait qu'ils souffrent aussi de la faim. Pas seulement qu'ils mangent, quoi. Ils mangent, j'ai l'impression, vous avez eu à manger. Ah, et ça tient pas, hein, c'est votre problème. Voilà, on s'arrête là.
Merci, Rav.